17h.
L'atelier des médias, c'est dimanche à 11h10, temps universel, sur RFI.
Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
Marion Cazanov.
Et Julien Coquelroem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Marion. À la une de ce journal, notre patience a atteint ses limites. Les mots du ministre de la Défense au Pakistan qui déclare la guerre à l'Afghanistan voisin dirigé par les talibans. Des frappes mutuelles entre les deux pays cette nuit après des bombardements des deux côtés ces derniers jours. De très bons progrès et de nouveau pour parler avec Washington dans moins d'une semaine. Le bilan encourageant des discussions hier sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Selon le chef de la diplomatie de Téhéran, Washington menace toujours de frapper le pays, mais vous l'entendrez, certains conseillers de Donald Trump plaident pour des frappes israéliennes avant toute implication des États-Unis. L'actualité ce matin, c'est aussi le Kenya et l'arrestation d'un recruteur accusé d'avoir trompé des Kenyans pour les envoyer combattre dans les rangs de l'armée russe sur le front ukrainien. Dans ce journal également, la Turquie, un an après l'appel du fondateur du groupe armé kurde PKK à poser les armes. Et puis elle prend ses marques en apesanteur en orbite autour de la Terre, des nouvelles de l'astronaute française Sophie Adnaud à la fin de cette édition.
Une brutale accélération après des mois de tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan.
Des frappes pakistanaises cette nuit contre l'Afghanistan et notamment plusieurs grandes villes alors que les deux pays avaient signé un accord de cessez-le-feu après des affrontements meurtriers à leurs frontières en octobre dernier. Regain de violence ces derniers jours avec des échanges de tirs et ces mots d'Islamabad ce matin. Bonjour François-Damien Bourgerie.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et tous.
Le Pakistan dit désormais être en guerre ouverte avec les talibans voisins.
Oui, une déclaration faite il y a quelques heures par le ministre de la Défense, Khawaja Azif, sur le réseau social X. Notre patience a atteint ses limites. C'est désormais la guerre ouverte entre nous et vous, a-t-il annoncé. Cette déclaration, vous l'avez dit, fait suite à des bombardements menés dans la nuit contre l'Afghanistan, des frappes qui ont visé la capitale Kaboul, mais aussi Kandahar et la province frontalière de Paktia. Une réponse appropriée, affirme Islamabad, après une offensive afghane lancée hier à sa frontière, que Kaboul dit elle-même avoir menée en représailles à des bombardements pakistanais le week-end dernier. Alors les autorités talibanes n'entendent pas en rester là. Elles ont annoncé de nouvelles frappes à grande échelle contre des positions de soldats pakistanais. Mais le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays détient l'arme nucléaire, prévient « Ses troupes ont, je cite, toute la capacité nécessaire pour écraser toute ambition agressive. »
François-Damien Bourgerie, merci. Et dans ce contexte, l'Iran propose son aide ce matin pour faciliter le dialogue entre les deux pays.
L'Iran qui évoque aussi de très bon progrès dans ses négociations avec les États-Unis.
Après une nouvelle journée de pourparlers hier à Genève, la plus intense à ce jour, selon le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, il affirme qu'une nouvelle session pourrait avoir lieu dans moins d'une semaine. Des discussions techniques sont aussi prévues à Vienne lundi, où Washington et Téhéran tentent toujours de trouver un accord sur le nucléaire iranien. Sur fond de menaces de frappes américaines, la pression reste forte sur le régime, accusé notamment par les États-Unis de ne pas vouloir aborder la question de ces missiles balistiques. Mais le site américain Politico révèle que la Maison-Blanche est encore loin d'avoir pris sa décision sur d'éventuels bombardements. Des conseillers de Donald Trump plaideraient plutôt pour qu'Israël frappe l'Iran en premier, Guilhem Deltaï.
D'après Politico, la préoccupation principale des conseillers de Donald Trump est la popularité d'une éventuelle guerre avec l'Iran. Actuellement, les sondages révèlent que les États-Unis et singulièrement les électeurs républicains sont opposés à un conflit qui pourrait entraîner des pertes humaines pour leur pays. L'hypothèse est donc que des frappes israéliennes entraîneraient des représailles iraniennes sur des intérêts états-uniens au Moyen-Orient. Il serait alors plus facile pour Washington d'obtenir un soutien populaire à des opérations militaires contre l'Iran. Cela pourrait aussi faciliter un soutien du Congrès, même si l'administration Trump n'a pas signifié si elle comptait le solliciter. Mais un tel scénario impliquerait aussi que les États-Unis seraient prêts à un conflit à grande échelle. Pour le moment, il semble hésiter entre frappes ciblées qui viseraient des installations militaires ou des responsables du pays et une opération plus large visant à renverser la République islamique. Mais en demandant à Israël de lancer les hostilités, les États-Unis font entrer d'emblée un troisième protagoniste. Il ne s'agirait alors pas d'une confrontation entre les seuls États-Unis et l'Iran. Téhéran devrait, en représailles, cibler aussi Israël. Ce scénario pose dès le départ le risque d'une diffusion régionale du conflit.
Guilhem Deltaï, prudence donc côté américain, même si J.D. Vance relativise les risques de conflit. Dans le Washington Post, le vice-président américain estime qu'il n'y a aucune chance qu'une frappe contre l'Iran débouche sur une guerre prolongée dans la région. Je pense que nous préférons tous l'option diplomatique, affirme-t-il ceci dit.
Et à Genève hier, les États-Unis discutaient aussi encore une fois avec l'Ukraine.
Volodymyr Zelensky annonce qu'une nouvelle réunion Ukraine-États-Unis-Russie pourrait avoir lieu à Abu Dhabi début mars, alors que le chef de la diplomatie russe affirmait hier que la Russie n'avait aucune échéance pour mettre fin à la guerre.
Moscou qui envoie notamment des combattants africains sur le front ukrainien.
Des centaines, voire des milliers de ressortissants du continent recrutés par des filières structurées, souvent par la tromperie, pour partir en Russie avant d'être envoyés en première ligne. Un important recruteur kényan vient d'être mis derrière les barreaux, arrêté et inculpé hier pour trafic d'êtres humains par le tribunal antiterroriste de Nairobi, Festus Arasa Omwamba, opérait depuis la capitale depuis 2024 via une agence non accréditée par l'autorité nationale de l'emploi. Son nom est au cœur d'une vaste enquête alors que plus de 1000 Kenyans sont partis en Russie, bien souvent sans savoir qu'ils seraient enrôlés dans l'armée. Parmi eux, des dizaines ont été hospitalisés, plusieurs sont portés disparus et au moins un décès a été confirmé. Les détails de l'enquête avec Clotilde Hazard.
En septembre 2025, une descente de police a permis de sauver 22 candidats au départ pour la Russie dans un appartement près de Nairobi. Des contrats non signés ont été retrouvés et plusieurs passeports saisis avec des visas touristiques. Les enquêteurs affirment que des sommes importantes ont été versées par les victimes. Les recrutements se faisaient via l'agence globale Face Human Resources Limited, appartenant à Festus Arasa Omwamba. L'homme attirait les recrues en leur promettant des salaires pouvant atteindre 350 000 shillings kenyans, soit 2300 euros par mois, assortis de primes allant jusqu'à 1 million de shillings, soit 6 250 euros, des sommes considérables au Kenya. Beaucoup avaient reçu la promesse d'obtenir la nationalité russe et pensaient partir pour des emplois de sécurité ou de gardiennage avant de se retrouver sur le front de la guerre en Ukraine. Le suspect a été appréhendé près de la frontière avec l'Éthiopie. Il avait disparu après que des familles aient commencé à protester contre les disparitions et les décès de leurs proches dans la guerre en Ukraine. Il aurait agi avec un complice également poursuivi dans cette affaire.
Clotilde Hazard, et lors de sa comparution devant le juge, le suspect a plaidé non coupable.
C'était il y a un an, le 27 février 2025. Le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, appelait son groupe à renoncer à la lutte armée.
Un moment fort dans le processus initié fin 2024 par la Turquie pour mettre fin à 4 décennies d'une guerre avec le PKK qui a fait plus de 40 000 morts. Depuis, les combattants kurdes se sont ralliés symboliquement à l'appel de leur fondateur, mais la paix se fait toujours attendre et les Kurdes de Turquie restent pessimistes aujourd'hui. Reportage à Nandlower.
Un an après l'appel d'Abdullah Öcalan, Ayla, une Kurde d'Ankara, ne sait toujours pas si elle peut croire à la paix. Le PKK, dit-elle, a prouvé sa bonne volonté, mais du côté de l'État turc, pour l'instant, rien de concret.
J'ai très peur qu'ils se contentent de libérer quelques prisonniers et nous disent « voilà, c'est tout pour le processus de paix ». Autrement dit, la principale attente des Kurdes, une citoyenneté égale, reconnue par la Constitution, pourrait ne jamais se réaliser.
Le scepticisme d'Ayla rejoint les conclusions d'un sondage réalisé mi-janvier dans 16 provinces du sud-est de l'Anatolie à majorité kurde. Moins du quart des sondés pensent que le processus de paix aboutira. Yüksel Genç, coordinatrice de l'Institut Samer.
Près de 80% des gens estiment que la responsabilité d'agir incombe désormais au gouvernement et au Parlement. Cela veut dire que les Kurdes attendent une prise d'initiative. Ils attendent de l'État des décisions et des actions concrètes, c'est-à-dire des changements législatifs pour garantir la paix.
Sturturdoğan est vice-président du parti pro-kurde DEM.
Le pouvoir continue de considérer la question kurde sous l'angle sécuritaire et non sous celui des libertés individuelles. Or, M. Öcalan est déterminé. Il n'y aura plus de lutte armée en Turquie. C'est fini. Il est donc temps de résoudre les problèmes par la voie politique.
Le parti pro-kurde appelle le gouvernement à faire adopter d'urgence une loi pour encadrer le retour en Turquie des membres du PKK dispersés entre l'Irak, la Syrie et l'Europe. Dans le Ankara, RFI.
RFI, 7h09 à Paris en France. Jean-Luc Mélenchon toujours droit dans ses bottes.
Le chef de file de la France insoumise sous pression de la droite, de l'extrême droite, du gouvernement et même d'une partie de la gauche depuis la mort du militant d'extrême droite Quentin de Ranque. Après une rixe entre un groupe d'extrême droite et des antifascistes, Jean-Luc Mélenchon était à Lyon hier pour soutenir la candidate insoumise au municipal, Anaïs Belloissa-Cherifi, et il persiste. Le groupe antifasciste La Jeune Garde ne doit pas être dissous et le député insoumis Raphaël Arnaud qu'il avait fondé ne doit pas démissionner. Victorien Villaume.
Dans une salle bien remplie, 2000 personnes présentes selon les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon tacle d'abord les médias traditionnels qui, d'après lui, réservent à LFI un traitement hostile.
La déferlante médiatique qui, depuis 10 jours, sans interruption, nous publie assortie de toutes sortes de menaces, d'injures. Vous êtes des menteurs.
Après avoir étrillé aussi les macronistes, le RN et le PS.
Changez de ton pour nous parler. Nous menons une bataille politique, pas une bataille de siège.
Le leader insoumis revient sur le jour où Quentin de Ranque est mort, cible le collectif identitaire Némésis.
Un traquenard a été tendu par une bande de provocateurs, en l'occurrence des provocatrices, qui voulaient un incident pour que surgissent des gens armés.
Et réitère son soutien à la Jeune Garde.
Que la Jeune Garde n'a jamais voulu, à aucun moment, la mort de qui que ce soit, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une organisation criminelle.
Malgré les appels à la démission, y compris à gauche, Jean-Luc Mélenchon redit aussi tout son soutien au député LFI Raphaël Arnaud, dont un collaborateur est mis en examen pour complicité d'homicide. Victorien Guillaume, Lyon, RFI.
Et puis, elle vit en apesanteur depuis bientôt 2 semaines.
L'astronaute française Sophie Adnaud à bord de la Station Spatiale Internationale depuis le 14 février dernier pour une mission scientifique qui doit durer 9 mois, pour la première fois depuis son arrivée dans l'ISS. Elle s'est confiée hier quelques minutes à quelques journalistes pour raconter sa vie dans son nouveau bureau volant, Baptiste Coulon.
Première information et pas des moindres, Sophie Adnaud va bien.
J'ai eu aucun des symptômes qui sont souvent les nausées, etc. Dès la première seconde, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, la grande forme.
Il faut dire que son équipage a été parfaitement accueilli par les 3 pensionnaires de la station. Visite des lieux et petite attention.
L'astronaute américain qui était là, qui nous avait déjà préparé nos sacs de couchage dans les chambres.
La française se familiarise peu à peu avec la pesanteur, avec les bruits et les odeurs à bord de l'ISS.
Moi qui ai vécu dans le monde technologique, technique des hélicos, ça ressemble à une odeur de carlingue métallique.
Surtout, elle a pu goûter à la vue imprenable que lui offre la coupole d'observation de la station.
C'est même encore mieux que ce que j'ai pu espérer. La vue est absolument magnifique. On n'y va pas tous les jours parce qu'on est quand même très occupé ici.
Les journées de travail sont réglées à la minute près.
Elles commencent en général à 7h30 du matin avec le briefing.
Et se poursuivent par la réalisation de plusieurs expériences scientifiques.
On va faire l'expérience EcoFinder, une expérience échographie avec à la fois de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée. Ça, ce sera la première expérience 100% française que je vais faire la semaine prochaine.
Une autre première pourrait intervenir dès le mois de mars, une sortie dans l'espace pour mener une opération de maintenance à l'extérieur de l'ISS, le Graal des astronautes les plus aventuriers.
Sophie Adnaud dans les étoiles et Baptiste Coulon à Paris où il est 7h13.
Et c'était le journal de Julien Coquel-Rohem. On passe au sport. Avec vous, Babacar Diarra. En football, il y aura 2 clubs français en 8e de finale de la Ligue Europa.
Lille a rejoint Lyon hier soir après avoir renversé la situation en barrage au bout de la prolongation face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Dogs ont effacé leur défaite 1-0 à domicile grâce à un but d'Olivier Giroud à la 5e minute. Ça, c'est pour le temps réglementaire. Mais il a fallu attendre la 99e pour que le Belge Nathan Ngoy vienne délivrer et qualifier les Lillois. L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, évoque sa fierté.
Certains avaient dit qu'on avait fait honte au football français après le match aller. C'était peut-être un peu fort. J'espère que ce soir, ils vont dire qu'on a rendu un peu de fierté. On a encore retrouvé ce qui avait fait notre grande force pendant la première partie de saison, à savoir des entrants très performants. Parce que Nathan, en plus, tous ceux qui sont rentrés ont grandement participé à cette qualification.
Bruno Genesio pourrait croiser l'autre club français en 8e de finale. Il y a une chance sur deux que le tirage au sort offre l'Olympique Lyonnais comme adversaire du LOSC. parce que l'autre possibilité serait le club anglais Aston Villa. Rendez-vous à 13h, heure de Nyon en Suisse, où le tirage au sort sera effectué juste après celui des huitièmes de finale de Ligue des Champions, où le Paris Saint-Germain peut tomber sur Chelsea ou le FC Barcelone, tandis que le Real Madrid est en balance entre les Portugais du Sporting et Manchester City.
Et pour Strasbourg, il y aura une double actualité aujourd'hui.
Le tirage au sort de la Ligue Conférence à la mi-journée, compétition dont les Alsaciens ont dominé la phase de Ligue. Et puis ce soir, les supporters alsaciens ont rendez-vous à la Méno pour défier le deuxième de Ligue 1, le Racing Club de Lens. Les Strasbourgeois veulent réaliser un deuxième coup après avoir stoppé le week-end dernier une série de 13 victoires de Lyon. Les Sang et Or avaient eux été renversés à domicile par Monaco. L'heure est donc à la relance pour le capitaine lensois Florian Sotoka.
Tant mieux que ce match arrive rapidement. Comme l'a dit le coach après le match, on a juste envie, c'est de retourner sur le terrain pour montrer que c'était une erreur. On est une équipe ambitieuse qui rêve d'aller le plus haut possible. On l'a montré ces dernières semaines avec de grosses séries. Après les matchs perdus, on a toujours bien réagi. Ça dénote de notre état d'esprit. Et voilà, on ne tire pas les uns sur les autres. Je veux dire, tout le monde peut faire des erreurs dans le football. Il n'y a aucun souci avec ça. Et le plus important, c'est de regarder devant. Et je pense que ça va être un beau match à regarder avec deux équipes joueuses. Donc voilà, ça peut faire une belle fête du football.
Strasbourg lance en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 19h45, temps universel.
En basket, l'équipe de France veut effacer son dernier faux pas dans les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2027.
Les Bleus s'étaient quittés en décembre sur une défaite en Finlande. Dans le groupe G, ils logent après deux matchs à la 3e place sur 4 avant le déplacement en Hongrie cet après-midi à 18h. Le sélectionneur Fred Fautou sera privé de ses joueurs NBA et de quelques joueurs d'Euroleague. Il pourra toutefois compter sur son meneur Sylvain Francisco, capitaine des Bleus pour la première fois ce soir.
Le journal des sports signé Babacar Diarra. Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
Et ce matin, avec vous Stéphane, on célèbre un anniversaire, celui d'un géant économique mondial, Pokémon. Le générique du dessin animé Pokémon qui nous accompagne, Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et compagnie, fêtent donc leurs 30 ans aujourd'hui. Jeux vidéo, cartes et dessins animés, donc les chiffres donnent le tournis. Depuis 1996, cet empire a généré près de 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Stéphane, c'est la licence médiatique la plus lucrative de l'histoire devant Star Wars, Marvel ou encore Harry Potter.
Et si vous ne connaissez pas Pokémon, le concept est simple. Vous incarnez un dresseur à la recherche de petits insectes et d'animaux. Vous devez ensuite les capturer, les collectionner, les échanger et les combattre. En 1996, c'est donc sur la Game Boy que le jeu voit le jour. Nintendo ne se contente pas de le sortir. L'entreprise bâtit un écosystème complet. Dessins animés, cartes à collectionner, films, jouets, vêtements, peluches... Et bien sûr, Marion, des produits dérivés, Pokémon devient ainsi très vite un univers à part entière.
Et c'est ça la force de Pokémon, justement, c'est son organisation économique.
Exactement, la marque appartient à un consortium composé de trois entités. Nintendo, on l'a dit, Game Freak et Creatures. Ensemble, elles contrôlent la création, la diffusion et la commercialisation. Résultat, une cohérence parfaite et la stratégie en découle naturellement. Le jeu vidéo lance les nouvelles créatures, le dessin animé raconte leurs aventures, les cartes prolongent l'expérience et les produits dérivés installent Pokémon dans notre quotidien. Chaque support nourrit l'autre et économiquement, Marion, c'est tout bonnement redoutable.
Et oui, tout est pensé, Stéphane, et la licence Pokémon a évolué avec son temps en conservant ce qui marche.
Voilà, le principal pilier, c'est le jeu vidéo. Pratiquement 500 millions d'unités vendues dans le monde. Mais avec l'arrivée des smartphones, le secteur a rencontré quelques difficultés, il faut bien le dire, et Pokémon a su s'adapter. Le jeu mobile Pokémon Go, il y a moins de 10 ans, a été un gigantesque succès. Son concept est aussi simple, c'est dans la rue et dans ce qui nous entoure pour de vrai que se trouvent les Pokémon. C'est le relais de croissance de la licence. Ça permet de toucher un public beaucoup plus large et de maintenir un lien quotidien avec les joueurs, très jeunes et moins jeunes. Depuis son lancement, le jeu a généré, tenez-vous bien, plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Là aussi, c'est gigantesque pour un simple jeu sur votre téléphone.
Et l'autre moteur économique, difficile de ne pas l'évoquer, ce sont les fameuses cartes Pokémon.
Ah oui, il y a même un marché des cartes Pokémon. C'est un véritable phénomène financier. Certaines se vendent des milliers de dollars, voire plusieurs millions. Oui, des millions La semaine dernière, par exemple, la plus célèbre carte a atteint, tenez-vous bien, 16,5 millions de dollars aux enchères. Et dès que de nouvelles cartes sont mises en vente, c'est la cohue dans les boutiques. Il y a rapidement des ruptures de stock. C'est finalement l'illustration de la grande force de Pokémon, Marion. La nostalgie et le passage de flambeau entre générations. Les enfants des années 90 qui ont aujourd'hui 30-40 ans en sont la cible. Ils ont du pouvoir d'achat et ils transmettent tout cela à leurs enfants. Pour le dire simplement, à 30 ans, Pikachu, Dragofeu et Carapuce ont encore de beaux jours devant eux.
Et pour aller plus loin, retrouvez le décryptage d'Olivier Moko, président de l'Observatoire européen des jeux vidéo. C'est sur RFI.fr, rubrique Aujourd'hui, l'économie. Merci Stéphane Genest. 7h19 à Paris, en France, des efforts pour atteindre la parité au travail. Un quota obligatoire entre en vigueur le 1er mars, ce dimanche. Dans les entreprises de plus de 1000 salariés, les plus hautes instances devront compter au moins 30% de femmes, et ce sera 40% en 2029. Bonjour Mercedes Serra.
Bonjour.
Vous avez fondé l'agence de publicité BETC, vous êtes présidente du groupe. Vous avez aussi cofondé le Women's Forum for the Economy and Society, qui a imposé des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Ce seuil donc de 30% que j'évoquais est presque atteint selon l'Observatoire Schéma de la féminisation en entreprise. Est-ce qu'il faut vraiment se satisfaire du fait qu'un tiers des femmes seulement fassent partie de ces comités exécutifs et autres instances ?
Non, je crois qu'il ne faut pas se satisfaire avant que l'égalité soit réellement atteinte. Et je pense qu'on s'aperçoit aussi qu'elle est, elle évolue bien lorsqu'on prend des décisions et qu'on prend des décisions politiques. Ça a été la même chose pour les conseils d'administration. Il n'y avait quasiment pas de femmes dans les conseils d'administration. Même des femmes très connues n'étaient pas représentées. On a mis une loi et ensuite les entreprises ont dit « c'est formidable, il y a des femmes ». Donc je pense que les lois nous aident et je pense que le travail ensuite de Marie-Pierre Rixin, qui s'est aperçu que ça ne ruisselait pas directement des conseils d'administration. On pensait qu'il y avait des conseils et que donc tout le monde allait pousser dans le sens des femmes pour les comités exécutifs. Pas du tout, il faut vraiment travailler, il faut vraiment faire des efforts.
Marie-Pierre Rixin donc, qui a donné son nom à cette loi donc, sur les quotas.
Et on la remercie.
Et donc à partir de dimanche, les grandes entreprises qui ne respectent pas ces quotas de 30%, donc pour l'instant, risquent des sanctions financières. Et il faut menacer les entreprises d'amende si elles ne confient pas aux femmes des postes à responsabilité. C'est un constat triste, non ?
Non, c'est un constat calme. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est très récent. La notion d'égalité femmes-hommes, c'est très récent. Je suis en train de sortir une campagne qui va montrer qu'égalité, il y a un astérix à côté, avec des tas de conditions spéciales pour les femmes, qui sont le fait que le salaire n'est pas le même, le fait qu'il faut beaucoup travailler à la maison avant de travailler au bureau. Donc tout ça, ça se cumule. Et comme c'est récent, il faut se battre. Il n'y a rien qui vient naturellement. Il y a beaucoup de stéréotypes encore. Donc je pense que le mieux, c'est de pousser. Et les entreprises,
donc,
elles ne sont pas...
de menacer, de,
non,
de,
on n'est pas obligé de menacer. On est obligé de faire des lois. Les lois, ce n'est pas une menace, c'est des lois. Et avant, elles n'existaient pas. C'est invraisemblable que ça n'existe pas. Donc voilà, il faut aider. Il faut toujours aider lorsque vous avez des siècles d'inégalités et de domination des femmes par les hommes. Il ne faut pas être naïf, ça ne va pas changer et ça ne change pas du jour au lendemain. Et nous sommes assez inquiets sur le monde.
Et alors, quels autres arguments incitatifs aussi on peut donner aux entreprises pour les encourager à mettre des femmes à des postes à haute responsabilité ?
Bah, je crois beaucoup aux arguments de l'ordre de la loi, mais après ils se rendent compte que ça marche super bien. Il semblerait que les résultats soient meilleurs. Et lorsqu'on voit le monde, on se dit que dans le monde diplomatique, dans le monde de la politique, ce serait peut-être aussi une bonne chose parce que le monde ne va pas très bien.
Et Mercedes Serra, justement, où se fabriquent alors ces inégalités ? Dès les études, à quel moment il faut commencer peut-être à éduquer, à former ?
Dès qu'on est. Dès qu'on est, parce que on n'y peut rien, les mamans et les papas. C'est pas qu'ils n'aiment pas leurs filles, c'est pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Et je ne sais pas qu'ils ont l'impression de ne pas être à égalité avec les uns avec les autres. Mais on commence par les mettre tout en rose. On dit que c'est mignon. On s'intéresse aux garçons différemment. On les fait rentrer dans des sports différents quand on fait faire du sport aux filles. Voilà, on amoindrit les vêtements des filles, rendent difficile parfois leur agitation, leur mouvement. Voilà, et peu à peu... Les études regardez les maths et les femmes, c'est pas possible.
Elles ont même dans cerveau. Les filières scientifiques.
Bah, bien sûr, il y a un écart important. On a vérifié le cerveau, c'est le même. Donc, il n'y a pas de point de différence. Il y a le fait que ça dure depuis très longtemps. C'est pas que chez les hommes, c'est aussi chez les femmes.
C'est intériorisé.
Ben, bien sûr,
chez les
stéréotypes ne frappent pas que les hommes.
Et alors, pour revenir au monde du travail spécifiquement, ceux qui critiquent cette loi, Rixain oppose l'argument du secteur aussi. Dans le secteur du bâtiment, il y a moins de femmes. Et donc, certains prétendent qu'il est difficile d'y respecter les quotas. C'est un argument valable, Mercedes Serra.
On choisit toujours les secteurs, en effet, les plus difficiles, mais psychologiquement, hein, pour imaginer des femmes. Mais je pense que les femmes, elles peuvent être partout. Il y a des tas de métiers qui ne nécessitent pas des forces musculaires incroyables. Et surtout, pour diriger, ça va. On n'a pas besoin de forces musculaires.
Et vous-même, qui vous intéressez donc au sujet, hein, qui avez réussi à imposer des quotas dans les entreprises, quels sont les arguments ou les faux arguments qu'on vous oppose pour nommer des femmes dans des grandes instances ?
Oh, on ne me dit plus rien, moi. Hein. Et je pense qu'ils ont peur. Donc non, ils ne disent plus rien. Je pense qu'il n'y a aucun argument. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un retour. Il y a deux inquiétudes chez moi très fortes. On entend le fait que les pauvres garçons ne sont pas bien traités. Mais de quoi on parle, quoi ? On est en train de parler de pousser l'égalité. Donc oui, évidemment, ils ont des postes qui vont aux femmes. Donc ça, on l'entend, je pense qu'il vaut mieux éviter de l'entendre. Puis la deuxième chose qui nous inquiète beaucoup, c'est un discours masculiniste qui est en train de monter et qui est mauvais, y compris chez les jeunes.
Et dans le monde du travail aussi, ce discours a un impact ?
Partout, les discours ont un impact. Donc, après, le monde du travail, il est plus surveillé. Donc, les discours peuvent être moins énoncés. En tout cas, encore en France, on énonce moins ce genre de choses. Mais il faut quand même se méfier. On entend quand même dans le monde, aujourd'hui, des discours sur les femmes inadmissibles.
Et alors, dans le privé, maintenant, je voulais parler des écarts, de l'écart salarial, qui reste aussi un problème. Il se réduit lentement. De 22,4% en 2023, il est passé à 21,8% en 2024, selon un rapport de l'INSEE publié hier. À ce rythme, il faudrait attendre 55 ans environ pour que cet écart se résorbe. Et s'il y a un tel écart, c'est que les femmes occupent souvent des métiers moins rémunérateurs ou travaillent plus à temps partiel, par exemple, pour s'occuper de leurs enfants. Comment est-ce qu'on sort de ce cercle ? La France va bientôt devoir appliquer une directive européenne sur la transparence des salaires. C'est une solution, une transparence des grilles ?
C'est bien. Puisque quand on ne sait pas exactement ce qu'est payé un garçon au même poste, on se trompe. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à des gens. Bien sûr. Donc, il faut faire très attention. Moi, je dis toujours surveiller. Hein. Posez les questions. N'hésitez pas. Ne pensez pas, ne soyez pas naïve. Il y a une différence. On s'aperçoit, à la sortie des grandes écoles, que les filles ont tout de suite, alors qu'elles ont les mêmes diplômes, peuvent avoir une différence de salaire, et donc incompréhensible. Et en fait, on la comprend parce que les garçons osent tout de suite négocier leur salaire, et pas les filles. Donc il ne faut pas hésiter à apprendre aux filles la négociation de salaire, à demander. Elles demandent moins que les hommes. Et puis après, ce que vous abordez, c'est un sujet encore plus profond. C'est le problème aussi quand elles prennent un temps partiel. C'est que 70% des tâches de la maison sont faites par les femmes. On parle de charge mentale, c'est une charge mentale et physique.
Et pour laquelle elles ne sont pas rémunérées.
Bien sûr, et dont il vaut mieux qu'elles ne soient pas rémunérées. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre les femmes à la maison et les rémunérer. Je pense que les hommes et les femmes qui fabriquent une famille doivent faire la même chose, s'occuper de leur famille, et réellement.
Donc, et donc peut-être adapter, par exemple, un congé parental. Il nous reste une minute. Pour le président français, Emmanuel Macron a beaucoup parlé de réarmement démographique. Les Français de 29 ans vont recevoir une lettre pour les inciter à avoir des enfants. Mais même si ça va mieux en termes d'égalité homme-femme en entreprise, c'est peu encourageant parfois pour une femme d'avoir un enfant parce qu'elles savent que à leur retour de maternité, certains collègues, si certains collègues ont une augmentation, elles n'en auront pas. Forcément, enfin, certains chiffres.
Alors là aussi, on peut mettre des règles et des lois. Moi, à l'agence, on n'a pas ce problème. Elles rentrent et elles sont augmentées comme si elles avaient été à l'agence. Après, il y a une discussion quand même plus importante. C'est comment on fait en sorte que les hommes prennent en charge la maison aussi. Je crois beaucoup au congé paternité pour les hommes, pas en même temps que les femmes. Sinon, elles continuent à faire tout. Et je pense que pour le futur, femmes et hommes ont intérêt à l'égalité.
Et donc, modifier
modifier beaucoup de choses.
Pas seulement dans le monde du travail.
Non, travailler les stéréotypes, modifier beaucoup de choses.
Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci
à vous.
Fondatrice de l'agence de publicité BETC, cofondatrice également du Women's Forum for the Economy and Society. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RFI.
Merci à vous.
Caroline Parry vous invite à poser vos questions dans Priorité Santé sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, couple, amitié, famille, comment la jalousie abîme-t-elle les relations?